Cependant que toutes ces pensées désordonnées avaient traversé le cerveau d'Arnold, le commissaire, lui, était demeuré impassible. Il ne semblait même pas envisager comme possible que son interlocuteur pût tenter de fuir, ce qui rassura ce dernier. Comme le criminel qui, pour gagner la confiance des policiers qui l'accompagnent, leur donne 1000 assurances de sa résignation, alors qu'en réalité il guette le moment de distraction qui lui permettra de s'échapper, Arnold se rassit et, croisant ses jambes, de manière qu'on ne put le soupçonner d'être prêt à bondir, il feignit de chercher une cigarette dans ses poches. « Mais qu'avez-vous, mon cher ?» demanda M. Bugeaud. « Il me semble pourtant vous avoir fait comprendre que je vous parlais en ami, en père même. Je vous répète que vous n'avez rien à craindre de moi. Vous pensez bien que, s'il en était autrement, je ne me donnerais pas le mal de vous convaincre de ma bonne foi. » « Vraiment ? Mais oui, vraiment. » Arnold ne savait s'il devait croire cet homme qui lui témoignait tant d'affection. Il avait peur de lui et en même temps il brûlait de se laisser aller, de se confesser, de soulager son cœur. Comme une bête qui ne connaît pas celui qui l'appelle, il n'osait s'avancer vers le plat qu'on lui tendait. Était-elle véritable, cette affection, ou bien était-elle un appât ? Au premier pas qu'il ferait, une main ne s'abattrait-elle pas sur sa nuque ? Que fallait-il faire ? Il regarda le commissaire de police. Rien ne trahissait sur son visage une telle duplicité. C'était un homme distingué, aux traits pleins de bonté et d'intelligence. Mais la sympathie que cet homme témoignait à Arnold était-elle si grande qu'il n'hésitait pas à compromettre sa carrière ? Cette carrière qu'il avait sans doute choisie pour le plaisir qu'elle donne de voir défiler devant soi toutes les misères de ce monde, elle devait l'être. Mais pourquoi ? Non, c'était impossible. Il se tairait. Il ne ferait pas la bêtise de parler, d'avouer. Sans se départir de son calme, M. Bugeaud devenait plus pressant. Il semblait avoir deviné que les aveux étaient imminents. Il ne lui restait plus qu'à faire acte de persuasion pour arracher le secret du jeune homme. « Vous avez commis, mon ami, un crime, je le sais. Mais de même qu'il y a aux plus grandes actions une raison laide, de même, à tous les crimes, il en est une qui est belle. Sur cette table se trouve un dossier qui vous concerne. Vous vous appelez Arnold Blake, vous avez 24 ans. Vous êtes domicilié 47 rue Blanche, n'est-ce pas ? « Non, non, restez assis. Laissez-moi finir. Dans un instant, vous serez libre. Vous pouvez bien m'accorder encore quelques minutes. Je vous disais donc que je possédais un dossier vous concernant. Eh bien, écoutez-moi. Ce dossier n'existe pas pour moi. Il ne m'intéresse pas. Je l'écarte de la main, comme ceci, et je vous regarde dans les yeux, en face. Ne détournez pas la tête. Regardez-moi. Vous n'avez pas le droit de vous dérober. » « Très bien, c'est cela. Je vois que vous avez une conscience, que vous êtes digne de l'intérêt que je vous porte. Eh bien, maintenant, avant de vous en aller, dites-moi la vérité. Cela vous soulagera et, une fois libre, vous pourrez recommencer une nouvelle vie. » « Vous croyez que je pourrais recommencer une nouvelle vie ?» demanda Arnold qui tremblait de peur. « Je viens de vous le dire. » « Oh, merci, merci, monsieur le commissaire, si vous saviez la reconnaissance !»« Vous vous trompez, mon ami. Je n'agis pas ainsi pour me valoir des titres à votre reconnaissance. Je n'obéis qu'à ma conscience. » Cette fois, Arnold avait complètement oublié qu'il se trouvait au commissariat de police. La joie qu'il éprouvait d'avoir enfin rencontré un homme qu'il aimait l'empêchait de considérer cette scène avec bon sens. Il était comme enivré de boisson. Oui, c'est vrai, dit-il avec emportement, j'ai commis un crime affreux. Cet homme, pourtant, ne m'avait jamais fait le moindre mal. Mais je souffrais tellement dans mon amour-propre. Parce que la femme de cet homme me donnait de l'argent, elle m'humiliait. À chaque instant, elle parlait de lui. Il se doutait de quelque chose. Il lui refusait l'argent qu'elle lui demandait afin de me le donner ensuite. Pourtant, avant ce crime, vous vous étiez rendu coupable d'un vol. À combien s'élevait la somme volée ? Je ne sais pas, 600 ou 700 francs. Mais cet argent, je ne l'ai même pas gardé. Dès que je me suis retrouvé dans la rue, j'ai eu brusquement conscience de l'horreur de mon acte et je l'ai jeté au vent avec dégoût. Lorsque vous avez rencontré le mari de cette femme, aviez-vous déjà l'intention de le tuer ou bien avez-vous agi dans un moment d'égarement ? Pourquoi me demandez-vous cela ? C'est une simple curiosité. J'ai l'impression que vous avez prémédité ce crime. Est-ce que je me trompe ? Oui, vous vous trompez. Je n'avais pas du tout l'intention de tuer. Je l'ai frappé du poing dans un moment de colère. Je n'avais même pas d'arme sur moi. Pourtant, ce marteau qui a été trouvé sur les lieux du crime n'a pas été reconnu par les familiers de la victime. Il est à supposer qu'il vous appartenait. En ce cas, il est assez étrange que vous vous embarrassiez de cet instrument pour vous rendre à un rendez-vous d'amour. Cependant que le commissaire avait prononcé ces mots, le visage d'Arnold avait brusquement changé. « Qu'est-ce que vous voulez dire ? » demanda-t-il avec inquiétude. « C'est moi qui vous pose une question. »« Oh, je ne sais plus, monsieur le commissaire, je ne sais plus. Je crois qu'il vaut mieux que je m'en aille. » « Vous avez bien encore une minute ?»« Non, vraiment. J'aime mieux revenir demain. Mais qu'écrivez-vous ? » ?»« Ne venez-vous pas de me dire que vous vouliez partir ?»« Oui, en effet. Je suis tellement fatigué. » »« Eh bien, c'est le mot que vous remettrez à l'agent de service. Sans ce mot, on vous obligerait à faire demi-tour. Vous voyez que cela n'a rien de bizarre. »« Ah oui, je comprends. » « Tenez, prenez cette plume. »« Pourquoi ?»« J'ai déjà signé. Il faut que vous m'imitiez. » Arnold fit le tour du bureau et signa à l'endroit que lui indiqua le commissaire. « Très bien. »« Je peux partir ?» demanda notre héros, dont l'assurance s'était évanouie. « Attendez une seconde. On va vous raccompagner. » Monsieur Bugeaud pressa sur le bouton d'une sonnette. Sans doute à cause de la fatigue causée par cette nuit sans sommeil, il semblait à présent se désintéresser complètement d'Arnold. Celui-ci attendait avec anxiété de pouvoir partir. Devant le changement d'attitude du commissaire, il était désorienté. Soudain, la porte s'ouvrit et un agent à moitié endormi parut. Sans dire un mot, par un simple signe, M. Bugeaud lui ordonna d'emmener Arnold. « Allons, venez !» dit l'agent au jeune homme qui ne pouvait quitter des yeux le commissaire. Cela a été dur, murmura ce dernier, comme s'il se fût parlé à lui-même. Mais le papier, supplia Arnold, vous l'avez gardé. Cela n'a pas d'importance, vous n'avez qu'à suivre l'agent. Comment un homme peut-il avoir une âme aussi basse? Comment peut-on se servir de sentiments aussi nobles à des fins aussi laides? Chaque heure qui s'écoule nous apporte-t-elle donc une raison de plus d'en vouloir au monde ? Jouer une pareille comédie, n'est-ce pas un crime aussi grand que celui que j'ai commis ? J'avais mille excuses, moi. Mais cet homme, quelles excuses avait-il ? Il recevra des félicitations. Peut-être en est-il des commissariats comme des ambassades. Certains arrondissements sont plus recherchés que d'autres. Du premier, il passera dans le 16e. Arnold marchait de long en large dans sa cellule. À son amertume s'ajoutait de la colère. Il avait tué, c'était entendu, mais il fallait tout de même tenir compte des conditions dans lesquelles il avait commis ce meurtre. Il avait tué cet homme dans un mouvement de colère. Ce n'était pas sa faute si le coup qu'il avait porté avec son poing avait été mortel. S'il y avait une justice, ne devait-on pas, avant de l'arrêter, chercher la vérité? Ne découvrirait-on pas alors que son âme était moins laide que celle de M. Bugeaud ? Il tournait à l'intérieur des quatre murs qui l'enserraient, et parfois il appelait la mort comme une délivrance. À certains moments, il se mettait à trembler des pieds à la tête, ce qui le contraignait à s'asseoir. Une nouvelle injustice allait donc être commise. Personne ne croirait à la beauté de ses sentiments. Personne ne croirait qu'il avait désiré faire une bonne action pour la seule raison qu'il n'en avait fait aucune. Pourtant, Dieu savait la vérité. Les hommes étaient ligués contre lui. Ils avaient commencé par l'enfermer. Mais où s'arrêterait leur méchanceté ? qu'il était bleu le ciel qu'il apercevait par sa lucarne. Et ses pigeons, et ses hirondelles, qu'ils étaient heureux de plonger ainsi dans l'espace. Et moi, je suis ici, entre ces murs humides, sans que personne connaisse le fond de mon cœur. » Il avait presque crié ces derniers mots. « Voulez-vous bien vous taire ?» fit le gardien qui venait d'ouvrir la porte du cachot. « Et pourquoi me tairai-je ? » « Allons, allons, ne le prenez pas sur ce ton. Je vous dis cela dans votre intérêt. Si cela vous amuse, vous pouvez crier encore plus fort. Si le surveillant vous entend, vous vous arrangerez avec lui. Mais, je vous préviens, il sera moins conciliant que moi. » Arnold était épuisé. Il n'avait pas dormi. Ses mains étaient brûlantes. Ni lavé, ni rasé, il se sentait repoussant. Ses vêtements usés, mouillés par la pluie, en séchant, avaient pris 1000 faux plis. Il avait perdu son chapeau, il ne savait tout. Parfois, au souvenir de la manière dont on lui avait arraché des aveux, une rage impuissante l'envahissait. Ah, s'il avait été libre, son premier acte eût été de se venger. Ce n'était pas lui qui pardonnerait. Que les hommes étaient méchants! Comment pouvait-il à ce point se jouer de la candeur, de la pureté, de l'honnêteté? Et pourquoi l'avait-on empêché de faire une belle action? Pourquoi ne voulait-on s'en tenir qu'à l'acte le plus laid de sa vie, alors qu'il en était tant d'autres? « Que me voulez-vous ? » demanda Arnold au gardien, qui, s'étant effacé pour laisser sortir le prisonnier, n'avait pas cru utile de lui donner la moindre explication. « Le juge d'instruction veut vous interroger. » « Le juge ?»« Le juge d'instruction, oui. Cela vous étonne ? Allons, dépêchez-vous. Est-ce que vous croyez par hasard que j'ai du temps à perdre ?» Quelques instants après, Arnold était introduit dans le cabinet du juge d'instruction. Celui-ci avait quitté son bureau pour fermer la fenêtre. Ce détail plut à notre héros. Il y avait dans la pièce 2 ou 3 subalternes. Pour ne déranger personne, le juge s'était lui-même levé. Ce trait indiquait sans doute un homme supérieur. Arnold le voyait encore de dos. Les épaules étaient rondes et pleines et l'avant-bras droit, habitué de reposer sur une table pour écrire, raide, écarté du corps, semblait presque infirme. « Asseyez-vous, » dit un homme installé dans un coin à une petite table. Arnold obéit, non sans répondre par un regard méchant. À ce moment, le juge se retourna et son visage apparut en pleine lumière. Arnold ne put réprimer un cri. « Taisez-vous !» fit l'homme installé à la petite table en même temps qu'un garde municipal frappait notre héros du coude. Sans lever les yeux sur l'inculpé, le juge reprit sa place devant son bureau. Il consulta quelques papiers, se redressa à demi pour fermer le tiroir d'un classeur, puis, saisissant une règle, regarda enfin le prévenu. Ce dernier, de nouveau, poussa un cri. Il avait reconnu, dans celui entre les mains de qui était son sort, l'homme qui, la nuit dernière, s'était trouvé à 2 reprises sur sa route. Le juge d'instruction et ce triste individu qui avait tenté de déshonorer une fillette ne faisaient qu'un. Celui-ci avait également reconnu le jeune homme. Pourtant, pas un muscle de son visage ne bougea. « De quelle affaire s'agit-il » demanda-t-il avec le plus grand calme à son secrétaire. « Il s'agit de l'affaire Pavillon. Cet homme est le meurtrier. Vous n'avez qu'à ouvrir le dossier, vous y trouverez les aveux que j'y ai joints. »« Il a fait des aveux ?»« Oui, monsieur le juge. D'ailleurs, cela n'a pas été sans mal. Tout le mérite en revient à monsieur Bugeaud. » Qui est monsieur Bugeaud ? « Monsieur Bugeaud est le commissaire de police du 1er arrondissement. La nuit dernière, comme... » Interrompant son collaborateur, le juge d'instruction s'adressa à Arnold. « Et quels sont les mobiles qui vous ont poussé à tuer monsieur Pavillon ? Le besoin d'argent, sans doute ?» Mais sans même laisser le temps à Arnold de répondre, le secrétaire prit la parole. « C'est exactement cela, monsieur le juge. » Une somme de 700 francs a été retrouvée sur l'inculpé. Il a prétendu avoir jeté au vent l'argent volé. Pourtant, quand on lui a demandé la provenance de ces 700 francs, il n'a pu donner que des explications incohérentes. À un moment, il a prétendu qu'il les tenait de sa mère. Mais l'enquête a permis d'établir que cette pauvre femme ne les lui avait jamais remis. Cependant que le secrétaire parlait, Arnold ne quittait pas le juge des yeux. Mais ce dernier fuyait son regard. Comme l'homme qui a surpris sa femme avec son meilleur ami, notre héros, sans pitié, attendait patiemment l'inévitable moment où le juge lèverait les yeux. Et lorsque le secrétaire lui parlait, il répondait sans détourner la tête, tellement il craignait de manquer ce moment. Vous êtes domicilié 47 rue Blanche ? Demanda le juge, toujours plongé dans le dossier. Oui, monsieur le juge, répondit Arnold d'une voix forte. Vous avez signé vos aveux ? Parfaitement. Avez-vous quelque chose à ajouter ? Non, monsieur le juge, fit Arnold en criant presque, comme s'il voulait défier son interlocuteur. En vérité, il le désirait. Si ce magistrat avait une conscience, qu'il devait souffrir. Sous cette rudesse, Arnold avait de la peine à cacher sa joie. Quelle victoire allait être la sienne quand, tout à l'heure, il dévoilerait devant tout le monde les vices de cet homme. On n'avait pas hésité à lui soutirer des aveux par des moyens infâmes. Tant mieux. De cette façon, il n'aurait aucun remords à démasquer ce juge, à briser sa carrière, à le déshonorer. Il y avait donc, malgré tout, une justice différente de celle qu'on appliquait en ce lieu. Et cette justice, ce n'était pas celle des hommes. Arnold savourait sa puissance. Il n'était pas pressé de découvrir son jeu. Il avait le temps. On pouvait l'accabler, il n'ouvrirait pas la bouche. Mais tout à l'heure, quand déjà son sort semblerait réglé, il demanderait, avec une feinte timidité, à faire une petite déclaration. Et le coup de tonnerre éclaterait. « Vous n'avez rien à ajouter ?» continua le juge. « Non, » répéta Arnold. « C'est bien. » À ce moment, pour la première fois, il osa lever les yeux sur l'inculpé. Ce dernier avait attendu ce regard. Allait-il parler ? Il hésita. Les yeux du juge n'étaient-ils pas suppliants ? Des larmes ne leur donnaient-elles pas un éclat inaccoutumé ? Et ses mains fines, posées sur le dossier, n'étaient-elles pas jointes comme pour une prière ? Devant cette imploration muette, une clarté subite s'était répandue dans l'âme du jeune homme. Cette belle action qu'il avait cherché en vain de faire, cette belle action qui devait le purifier, n'était-elle pas à sa portée ? Il eut sans raison un geste de la main qui signifiait « tant pis ». Pourquoi « tant pis » il l'ignorait. Il regarda le juge. Cet homme avait une femme, des enfants, des amis, une situation. Comme sa reconnaissance serait grande pour celui qui, connaissant le mystère de sa vie, ne s'en servirait pas pour s'attirer l'indulgence des jurés. Non, Arnold ne parlerait pas. Il garderait au fond de son cœur le secret dont la divulgation plongerait son propre juge dans un abîme. Quelle action au monde était plus belle que celle-là ? Enivré par cette nouvelle résolution, il baissa les yeux et laissa errer sur son visage une expression de tristesse. « Ne craignez rien, semblait-il dire, je ne vous dénoncerai pas. » Le magistrat ne répondit pas. Ému jusqu'aux larmes par une telle grandeur d'âme, il contemplait avec pitié cet homme que les circonstances l'amenaient à interroger. « Merci, » murmura-t-il dans un souffle pour que les personnes présentes à cette scène ne s'aperçussent de rien. « Je vous en prie, monsieur le juge, » répondit le secrétaire qui croyait que c'était à lui que ce remerciement s'adressait. Lorsqu'il se retrouva dans sa cellule, Arnold faillit se mettre à chanter tellement il était heureux. Il n'était plus un vulgaire assassin. Il venait de montrer, sans contestation possible, à quelle hauteur pouvait s'élever son âme. Dans un instant, sans doute, les portes de sa prison s'ouvriraient et il serait libre, comme les pigeons, comme les hirondelles. Il partirait d'un pas assuré, sans se retourner, en balançant les bras, le visage au vent, la tête nue. Combien de minutes, d'heures, Arnold vécut-il dans cette allégresse ? Toujours est-il qu'il faisait nuit noire quand il reprit conscience de la réalité. Il s'aperçut brusquement qu'il était enfermé. la clarté qui tombait du ciel constellé éclairait seule son cachot. « Où suis-je ? » se demanda-t-il avec angoisse. Il ne savait plus depuis quand ni pourquoi il était emprisonné. Son ombre était immobile le long d'un mur. Il la regarda avec stupeur. Elle était voûtée comme celle d'un vieillard. « Mais je suis peut-être déjà vieux, » pensa-t-il. Il porta machinalement une main à son visage. Une barbe épaisse le couvrait. « Je rêve. Ce n'est pas possible autrement. » Il appela. Personne ne répondit. Il appela plus fort. Le même silence continua à l'entourer. Alors il se mit à hurler. « Qu'est-ce qu'il y a ? » demanda un gardien à travers la porte. « Dites-moi où je suis. Dites-moi ce qu'il va advenir de moi. » « Mais rien. Soyez courageux, c'est tout ce que je peux vous dire. » Et les pas du gardien s'éloignèrent. Arnon les écouta jusqu'à ce qu'ils devinssent imperceptibles. Puis, comme une masse, il tomba sur son lit. Soudain, dans son demi-sommeil, il perçut des bruits de voix qui se rapprochaient. Il dressa l'oreille. L'aube se levait. Il frissonna. « Ayez du courage !» lui dit un gardien qu'il n'avait pas vu entrer et qui se tenait près de lui. « Pourquoi ? » demanda Arnold. « L'heure d'expier votre crime est venue. » Arnold se dressa sur son séant. 5 ou 6 hommes, vêtus de noir, parlaient à voix basse dans le couloir. « Mais qu'est-ce qui se passe ? » demanda-t-il encore, en tremblant des pieds à la tête. Subitement, il comprit tout. Condamné à mort, il allait être exécuté. Il voulut fuir, mais c'est à peine s'il put esquisser un mouvement. Saisi à bras-le-corps, il fut immobilisé sur le champ. « C'est honteux ! C'est honteux ! » cria-t-il en essayant de se débattre. « On n'a pas le droit de faire cela ! Où est le juge ? Il sait tout, lui ! Il m'a promis de me rendre ma liberté ! Sans quoi, je ne me serais pas laissé condamner comme cela ! J'aurais tout dévoilé et la lumière aurait éclaté ! « Où est le juge ?»« Il est couché, » répondit une voix. « Allez le chercher ! Allez le chercher ! Lui seul peut me sauver. »« Il ne peut pas te sauver, puisque c'est lui qui t'a fait condamner. » En entendant ces mots, Arnold perdit à demi connaissance. Sa tête tomba sur sa poitrine. Les oreilles bourdonnantes, il avait pourtant conscience qu'on le portait. Un vent glacial lui cingla le visage sans le ranimer. Sans aucun doute, c'était vers le lieu de l'exécution qu'on le conduisait. Dans un dernier effort, il voulut se défendre, mais tout ce qu'il put faire, ce fut d'imprimer un léger balancement à ses bras pendants. Il entendit distinctement une voix qui disait « Mettez-le sur le dos !» Cela lui parut étrange. Il n'avait jamais assisté à une exécution capitale, mais il lui semblait que c'était sur la nuque que le coup pourrait tomber et non sur la gorge. Il ouvrit les yeux. Le patron de l'hôtel de la rue Blanche était au-dessus de lui. La fenêtre et la porte étaient ouvertes, de manière à faire un courant d'air. Pourtant, une forte odeur de gaz persistait dans la pièce. Des voisins parlaient dans le corridor. Un médecin, en manche de chemise, s'affairait autour de lui. Il était étendu sur le dos, justement. Il regarda le plafond, puis la lumière électrique. Alors, il se souvint de tout. « Vous pouvez dire que vous l'avez échappé belle, » observa le patron de l'hôtel. « Mais qu'est-ce qui vous a pris à votre âge ? » demanda quelqu'un. Arnold n'entendait pas ces paroles. Libéré de cet affreux cauchemar, il reprenait lentement goût à la vie. Dans l'allégresse qui l'envahissait, il ne remarquait pas que 2 hommes, au visage fermé, se tenaient dans sa chambre. « Est-ce qu'il peut marcher ?» demanda l'un d'eux au médecin. « Non, il faut faire venir une ambulance. »« C'est bien. » Puis, s'adressant au jeune homme, « À propos, où les avez-vous cachés, les 700 francs ? Je les ai cherchés partout. Ils ne sont pas dans cette chambre. Avouez donc que vous les avez donnés à un complice. » Arnold ne répondit pas. Mais quelle idée avez-vous eue de vous suicider ? On ne se donne pas la mort parce qu'on a volé 700 francs à une femme. Cette fois, le jeune homme se mit à trembler. C'est très grave, n'est-ce pas ? Évidemment, ce n'est pas très honnête, mais enfin, il n'y a pas de quoi se suicider. Les policiers, malgré tout, avaient bon cœur. Qu'un jeune homme se fût affolé au point de vouloir mourir parce qu'il avait volé 700 francs, les avait touchés. Cela les changeait des bandits auxquels ils avaient affaire quotidiennement. Et comme Arnold se mit à sangloter, l'un d'eux lui dit avec douceur « Il ne faut pas vous émouvoir à ce point, mon petit. » « Mais il est tombé au moment où je l'ai frappé. »« De qui parlez-vous ? » ?»« De Monsieur Pavillon. Est-ce qu'il est mort ?» Les inspecteurs éclatèrent de rire. « Mort ? Ah, cela, non. Il ne se passe pas d'heure qu'il ne téléphone pour demander si vous êtes arrêté. Il faudra que nous soyons nombreux le jour où on vous confrontera tous les deux, sans quoi, cette fois, ce ne sera pas comme avec le gaz. Il ne vous manquerait pas, lui. » Arnold ne put retenir un cri de joie. Il n'avait donc pas tué M. Pavillon. Il était donc innocent. Mon Dieu, que la vie était belle! Il ne restait donc plus que la question des 700 francs. Comme c'était peu de choses! Il essaya de se lever, mais la tête lui tourna et il retomba en arrière sans connaissance. De quoi s'était-il rendu coupable? Entendit-il comme dans un rêve. Il voulut répondre, mais personne ne l'écoutait. « Ce n'est pas bien grave, » expliqua un des policiers. « C'est un petit jeune homme qui ne veut pas travailler. Si vous saviez comme ils sont nombreux, il fallait quand même qu'il vive. Il est devenu l'amant de la femme d'un commerçant du boulevard de Clichy. Elle lui donnait ce qu'elle pouvait distraire de son foyer. Mais le mari s'est aperçu qu'on lui volait quotidiennement de petites sommes. Finalement, il a surpris sa femme. Elle lui a avoué la vérité. Il lui a pardonné, mais à la condition qu'elle lui dise où elle devait revoir son amant. Il est venu avec elle au rendez-vous. Vous devinez la suite. Une dispute s'élève entre les deux hommes. Ils en viennent au coup. Frappé au visage, M. Pavillon tombe à terre et le jeune homme prend la fuite, affolé. Il s'imagine qu'il est devenu criminel et, dans son désespoir, décide de se donner la mort. Arnold n'avait pas perdu une parole du policier. Il s'était repris. « Merci, » balbutia-t-il. « C'est exactement comme cela que les choses se sont passées. Évidemment, je n'aurais pas dû prendre ces 700 francs dans le sac de Madame Pavillon, mais je ne savais plus ce que je faisais. J'étais malheureux, je souffrais. J'avais le sentiment qu'elle ne m'aimait plus, que c'était elle qui avait tout raconté à son mari, qu'elle cherchait un moyen de se débarrasser de moi. » Ne vous faites pas de mauvais sang, tout cela va s'arranger. Il peut sembler étrange que des inspecteurs de police soient si indulgents pour un voleur. La vérité était qu'ils ne portaient pas M. Pavillon dans leur cœur. À la police judiciaire, où il avait été invité à fournir des renseignements susceptibles de faciliter les recherches, il avait eu une attitude déplaisante. « Je suis citoyen français », s'était-il écrié dans le bureau d'un commissaire principal, et j'ai droit à autant d'égards que n'importe qui. Ce n'est pas parce que je ne suis qu'un petit commerçant que vous ne devez pas prendre mon affaire au sérieux. Je vaux autant qu'un autre. Ah, s'il s'était agi d'un gros, ce n'est pas à deux petits inspecteurs que vous auriez confié cette affaire. On nous répète tout le temps que nous sommes en République, que nous sommes tous égaux, mais ce n'est pas vrai. J'aime mieux vous dire que je n'ai pas l'habitude de me laisser ridiculiser. Je ferai intervenir qui de droit. Et cela n'avait pas été sans mal que le commissaire principal avait calmé M. Pavillon. « Vous croyez vraiment que tout va s'arranger ?» demanda Arnold. « Certainement, on verra bien que vous n'êtes pas un voleur comme les autres. D'ailleurs, je vais vous donner un conseil. « Lequel ? Soyez naturel, sincère. Dites la vérité. N'essayez pas de tromper la justice. Vous avez fait des erreurs, eh bien, reconnaissez-le. » Les juges ont beaucoup plus de cœur qu'on ne le croit. Ils comprennent tout de suite à qui ils ont affaire. Ah, évidemment, ils n'aiment pas qu'on se moque d'eux. Mais c'est compréhensible. Nous sommes tous les mêmes, n'est-ce pas ? Nous n'aimons pas beaucoup que le voisin se paie notre tête. Dans ma profession, par exemple, je n'aime pas qu'on vienne m'en remontrer. Il y a 23 ans que j'appartiens à la police. Vous pensez si j'ai de l'expérience et si je sais discerner un bandit d'un honnête homme. Il ne faudrait donc pas qu'on vienne me dire que je me trompe. Eh bien vous, cela se voit, vous n'êtes pas un bandit. Vous avez eu une défaillance, c'est vrai, mais vous le regrettez. Imaginez donc Bonneau ou Garnier se suicidant pour avoir donné un coup de poing à un mari jaloux. « Et les 700 francs ?» demanda Arnold. À ce moment, une femme de chambre vint prévenir les policiers que l'ambulance municipale était en bas et que le chauffeur et un infirmier allaient arriver dans la pièce. Arnold se sentait mieux. Il reprenait goût à la vie. L'injection d'huile camphrée que lui avait faite le docteur 10 minutes auparavant commençait à produire son effet. Aucune des personnes qui l'entouraient ne lui paraissait antipathique. Dans son évanouissement, il avait donc vécu un horrible cauchemar. Heureusement, tout était à présent terminé. Quand il se vit allongé sur le brancard, il ne put s'empêcher de sourire. « Voulez-vous, dit-il à l'infirmier qui se trouvait derrière lui, ne pas me secouer de cette façon, cela me donne le mal de mer. » Les policiers qui marchaient près de lui se regardèrent avec étonnement. Avant de hisser Arnold dans l'ambulance, les infirmiers posèrent un instant le brancard sur le trottoir. « Vous n'allez tout de même pas me laisser ainsi sous la pluie ?» dit Arnold assez sèchement. Cette fois, un des inspecteurs perdit patience. Il leva la main. Que se passa-t-il alors ? Personne ne le saura jamais, car, au même instant, Arnold rendit son âme à Dieu.